et qui approfondit donc la série écrite à Julie, hein, cette double compétence avec un master consacré à J.K. Rowling en 2016 et des articles de vulgarisation à son actif. Et donc, vous allez nous parler de l'histoire dans l'histoire, chasse aux sorcières, contestation sociale et antifascisme dans Harry Potter.
Oui, merci. Donc, je viens avec ma double casquette aux Imaginales cette année. Donc, pour aborder cette question de la grande histoire dans la petite histoire. Alors, petite histoire, évidemment, quand on parle de Harry Potter, c'est pas très juste, hein, puisque J.K. Rowling a commencé son heptalogie en 1997 et depuis plus de 20 ans poursuit le travail dans l'univers de son héros Harry Potter, avec bientôt encore un nouveau film dont elle fait le scénario. Qui se situe avant, historiquement, la période qui a été traitée dans les 7 volumes de Harry Potter. Donc, si on revient un tout petit peu sur les chiffres, rappelons que cette heptalogie a été traduite en 80 langues, qu'elle s'est vendue à 500 millions d'exemplaires, qu'elle fait à peu près 8000 pages, et que dès le début de ce succès incroyable, les journalistes, les chercheurs, les enseignants, même tous parents observant les enfants et les adolescents qui dévorent de tels volumes, se sont interrogés sur la capacité de Rowling à garder en haleine ses lecteurs pendant 20 ans, en fait, surtout pour une œuvre jeunesse qui appartient à la fantasy. Elle n'en donne pas, cependant, une image conventionnelle de la fantasy, puisqu'elle renouvelle à la fois des modèles antérieurs d'école de sorciers, tout en ne coupant jamais la communication entre le monde réel et le monde imaginaire. Et une des caractéristiques de cette œuvre, c'est le substrat culturel de très grande importance. L'œuvre se définit par de multiples références à différentes cultures, aux mythes, aux éléments de l'histoire et du monde contemporain. L'auteur a créé avec le monde des sorciers tout un univers parallèle au monde réel, imbriquant dans l'organisation de la société contemporaine un univers dont les règles et les usages sont différents. Ce qui relève de l'imaginaire dans le monde réel constitue la vérité du monde sorcier. La matière merveilleuse des contes, de la fantaisie, des mythes, est utilisée pour constituer un ailleurs qui reste très proche et qu'il suffit de voir pour y pénétrer. En effet, le chemin de traverse, la voie 9¾, le château de Poudlard sont juste derrière le mur, au bout du quai, derrière un mur, voilà, si tant est qu'on y croit. En fait, les deux mondes coexistent parfaitement. Ils sont liés par un chemin sur lequel le lecteur est accompagné, aidé, aiguillé. L'humour, les redondances, les clins d'œil, les références communes le rassurent et lui donnent une impression de familiarité qui lui permet de partir à l'assaut de ce qu'il ne connaît pas et de nouvelles références culturelles. Des nouvelles références en mythologie, du latin de cuisine, des noms à tiroir, des thèmes qu'il voit peu souvent abordés en littérature de jeunesse vont du coup faire leur nid dans ces multiples références. Et Rowling va pouvoir aborder des sujets beaucoup plus sombres, la maladie, le corps et la mort surtout, hein, qui reste vraiment le thème central des 7 volumes. Donc le lecteur va suivre des personnages, son héros tout d'abord, et puis très rapidement deux autres héros qui étaient des adjuvants et qui vont devenir héros à part entière, mais aussi toute une foule de personnages plus ou moins secondaires, des amis, des ennemis, des méchants qui ne sont pas si noirs qu'il y paraît, des gentils qui cachent des failles et des erreurs de jugement. Et tous ces personnages qui constituent une galerie de portraits incroyable vont permettre au lecteur de servir d'exemple. Alors on s'éloignant du manichéisme, du moralisme, pour comprendre la société, l'histoire, la culture qui les entoure, un peu comme un miroir. Donc, si les livres de J.K. Rowling permettent au lecteur de passer de l'autre côté, comme Alice, c'est pour regarder en fait le monde sous un autre angle et regarder l'endroit d'où ils viennent, leur point de départ, avec un regard un peu neuf. Rowling propose une interprétation du monde actuel à travers la symbolique du monde sorcier. Alors, si on démarre, alors j'ai pas fait de PowerPoint, donc si on démarre sur la première idée qui était la chasse aux sorcières, elle n'est pas beaucoup représentée. Il y a très peu de références. Il y en a une particulièrement, cependant, qui est intéressante. Harry Potter entend pour la première fois réellement parler de la chasse aux sorcières dans le volume 3, Le prisonnier d'Azkaban, où le glacier, Florian Fortarome, va lui donner quelques informations pour son devoir d'histoire sur la chasse aux sorcières. Donc, les différentes chasses aux sorcières qu'on peut se tenir au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il y a peu de détails. Et pourtant, ce Florian Fortarome va réapparaître parce qu'il va être arrêté pour des raisons inconnues à la toute fin par Voldemort et ses partisans. Et donc, on peut supposer que ce recours à l'histoire, le fait qu'il soit un référent pour Harry Potter, pose problème, pose souci aux partisans de Voldemort. Et c'est justement le premier réflexe que va développer Harry, sous l'impulsion d'Hermione évidemment, ça va être d'aller chercher dans l'histoire, dans les livres historiques, des éléments pour pouvoir se défendre contre ceux qui l'attaquent. Je pense en particulier, toujours dans Le prisonnier d'Azkaban, au réflexe qu'ont les trois enfants d'aller chercher à la bibliothèque toute référence possible pour sauver Buck l'hippogriffe. Donc ils vont compiler toute une somme d'informations pour essayer de défendre Buck lors du procès, procès qui ressemble bien quand même à une chasse aux sorcières. En fait, la chasse aux sorcières, c'est le postulat premier. L'histoire commence avec Harry qui vit chez les Moldus, qui est une sorte de cendrillon caché sous le placard, qui fait les bastaches. Et puis, il va passer la frontière, il va rentrer dans le monde des sorciers. Le monde des sorciers qui, en fait, sont les gens normaux, les gens qui réfléchissent, les gens qui s'intéressent à l'histoire. Et ce sont les Moldus, finalement, qui vont paraître anormaux. Donc, je pense qu'au-delà des problèmes psychologiques et des conflits adolescents au sein du groupe scolaire, qui sont un des sujets importants quand même, les multiples références sociologiques et historiques permettent vraiment au lecteur de devenir actif et de creuser le texte. Alors, si on s'intéresse, par exemple, aux références historiques au fascisme, au nazisme en particulier, il y en a de très nombreuses que le lecteur habitué à chercher un petit peu derrière le latin de cuisine le vrai sens des sorts et le vrai sens des noms des personnages va pouvoir retrouver assez facilement. Je vous en donne quelques-unes. On a, par exemple, les initiales de Salazar Serpentard. Alors, Salazar, évidemment, fait référence au dictateur portugais. Et donc Salazar Serpentard forme l'initial SS comme Severus Snape, donc le rogue en français, rappelle les SS. La théorie de la race, la doctrine qui prône la pureté ethnique chez les partisans de Voldemort, évidemment, fait référence aussi au nazisme. Les Malfoy ont un physique aryen typique. L'école d'Armstrong, ses sonorités rappellent Sturm und Drang, donc la référence wagnérienne qu'Hitler a érigée en musique nationale. Mais on n'a pas que des références, évidemment, au nazisme. On va trouver aussi avec Karkarov une sonorité russe. Les cagoules des manges morts peuvent rappeler le Ku Klux Klan et les tracks des nés moldus en fuite dans le dernier volume évidemment peuvent rappeler les tracks les chasses aux esclaves hein, qui ont malheureusement marqué l'histoire américaine et ces références en fait J.K. Rowling les assume parfaitement mais elle refuse de se limiter à cela. Elle explique ainsi c'est bien une métaphore politique mais à aucun moment je ne me suis dit que je voulais recréer l'Allemagne nazie dans le monde des sorciers. En fait, même si j'ai volontairement évoqué l'Allemagne nazie, il existe aussi d'autres associations aux situations politiques différentes. Je ne peux donc pas en isoler une seule en particulier. Alors, à titre d'exemple, et je trouve que c'est assez intéressant, on a le personnage de Fudge, qui est ministre et qui ministre des sorciers, qui refuse de reconnaître que Voldemort est un véritable danger, qui évoque Chamberlain au moment où, juste avant la Seconde Guerre mondiale, où les Britanniques commençaient quand même à s'inquiéter sérieusement de la menace venue du continent. Fudge, devant l'évidence, va devoir céder la place à un autre ministre qui évoque Churchill, Scrimgeour, qui va se révéler particulièrement violent pour faire une sorte d'anti-propagande contre Voldemort, et qui va arrêter le personnage de Stan Rocade. Alors c'est assez symptomatique de ce que Rowling veut faire, parce que elle montre que la résistance opposée à Voldemort par le ministère n'est pas toute blanche, et qu'ils vont arrêter quelqu'un qui est peut-être pas innocent, mais du moins largement manipulé. Et Harry Potter, lui, va refuser de s'associer à cette manipulation. Et donc là, on voit que Rowling ne se contente pas de dénoncer le fascisme de Voldemort, mais aussi de montrer que les réactions de l'État en place peuvent être tout aussi dangereuses. Donc, dans ce discours qui est résolument antiraciste, le personnage d'Hermione va servir pour l'auteur de contrepoint, donc pour démontrer l'inanité des thèses élitistes qui sous-tendent la politique du monde sorcier. Hermione Granger est un personnage qui est né moldu. Alors, cette façon de nommer les sorciers, les némoldus, les sangs mêlés, les sangs purs, fait référence pour Rowling, malheureusement, à la classification nazie. Et donc, Hermione étant une némoldue, elle est déconsidérée, elle est rejetée, elle est même poursuivie et est torturée dans le dernier volume. Et pourtant, elle est beaucoup plus douée et beaucoup plus forte scolairement. Elle est celle qui a toujours les réponses. Elle représente en fait une sorte de renouveau, comme a pu le faire la mère de Harry Potter, Lily Potter, avant elle. Elle en fait prouve que dans les sociétés vieillissantes, les nouvelles personnes, le sang neuf, permet par l'intégration d'apporter en fait une vision d'avenir beaucoup plus intéressante. Et elle termine elle-même au ministère après avoir réussi à vaincre les mauvais ministres comme Dolores Umbridge. Hermione, donc, c'est l'allégorie de la minorité rejetée, sans être une victime résignée. Et l'autre personnage secondaire qui peut être étudié dans cette idée de rechercher les éléments historiques dans Harry Potter, c'est Ron. Alors Ron, lui, par contre, il est un pur sang. Il fait partie d'une famille de purs magiciens, mais il est rejeté aussi. Alors pourquoi rejeté ? Parce qu'il est roux, il fait partie d'une famille avec beaucoup d'enfants, bref, il représente les Irlandais et la pauvreté. Alors c'est marqué de manière très évidente dès le début par Malfoy, qui accueille Ron en se moquant de lui et en lui disant... parce que Ron rigole en entendant le nom de Drago Malfoy. Drago lui dit: mon nom te fait rire, inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Il y a un mépris de Malfoy très évident pour la pauvreté, mais pas seulement de cette famille-là, la famille Gaunt, la famille Black, les Croupton, les Smith, donc des familles argentées et nobles dans le monde sorcier, ont un grand mépris pour ceux qui leur semblent inférieurs. On en a un exemple quand les deux sœurs Black vont aller rendre visite à Rogue. Elles vont s'aventurer dans son quartier, qui est un quartier moldu. Et Bella, regardant autour d'elle les murs de briques, les maisons délabrées, s'exclame « C'est ici qu'il habite ? Ici, dans ce trou de moldu ? Nous devons être les premières de notre rang à avoir jamais mis les pieds dans... » Et elle ne finit pas sa phrase, dégoûtée par ce lieu qui leur semble largement en dessous de leurs conditions. La noblesse des Argentés, des Gaunt, est aussi symptomatique de ce mépris des classes supérieures, qui se considèrent supérieures. Et Rowling tisse cette opposition pendant les 7 volumes, avec de temps en temps des références à l'histoire actuelle pour ne pas situer ces éléments-là dans un espèce d'ailleurs lointain. Je pense en particulier à la tante Marge. Donc la tante Marge qui fait penser à Margaret Thatcher avec son costume en tweed, son petit chien qui peut évoquer aussi les petits chiens d'Elisabeth, la reine d'Angleterre, et son mépris évident pour les bons à rien, les chômeurs qui ne travaillent pas comme le père de Harry. Donc on a vraiment cette lutte des classes qui est représentée, et elle en a parlé elle-même dans un magazine auquel elle a répondu, en expliquant que l'enfant, d'après elle, a une conscience aiguë de l'argent avant d'être conscient des classes. Il ne va pas vraiment remarquer comment un autre enfant tient son couteau et sa fourchette, mais il va être bien conscient de ne pas avoir assez d'argent de poche ou de ne pas en avoir tant que ça. Je me revois à l'âge de 11 ans. Les enfants peuvent être méchants, très méchants. C'est ainsi qu'on a Ron, qui ne porte pas de robe de la bonne longueur. Vous savez qu'il ne peut pas s'acheter des choses dans le train. Il doit se contenter de sandwichs que sa mère lui a fait, même s'il ne les aime pas. Avoir assez d'argent pour s'intégrer est une facette importante de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus conformiste qu'une école ? Donc, on voit à travers cet élément-là que les deux phases, l'antifascisme, l'antiracisme, et aussi la vision d'une lutte des classes encore présente dans la société britannique actuelle, sont dessinées durant tout le déroulement de l'histoire. J.K. Rowling ne se fait pas d'illusions sur ce qu'elle va pouvoir changer pour autant avec son heptalogie, puisqu'elle dit « Je ne me crois pas pessimiste, mais je pense être réaliste quant à la possibilité de changer un préjugé bien enraciné. J'ai donc l'impression que Harry Potter n'aura peut-être aucun effet sur les racistes convaincus. » Bah, à vrai dire, c'est pas vraiment à eux qu'elle s'adresse, puisqu'elle s'adresse à des jeunes en formation à qui elle apprend justement à réfléchir et à se poser questions sans arrêt grâce à cette façon qu'elle a de ne jamais donner les biscuits tout prêts. Il faut quand même creuser, il faut quand même chercher un petit peu pour trouver les éléments. Alors on peut en trouver bien d'autres, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à chercher les points communs avec plein de situations, Guantanamo, Azkaban, la politique antiterroriste, la politique du ministère de la magie et tout, on peut en trouver énormément. Mais ce qui reste, je crois, c'est ce que Rowling a dit au Times. Contre quoi tous mes livres prêchent-ils ? Le sectarisme, la violence, les luttes de pouvoir et tout le reste. Au final, elle voulait que Harry quitte le monde des moldus et retrouve exactement les mêmes problèmes dans l'univers des sorciers. La volonté d'imposer une hiérarchie accentuée par les notions de fanatisme et de pureté de la race, qui sont de graves erreurs mais qui se manifestent dans le monde entier. Les gens aiment se croire supérieurs et s'enorgueillissent d'une pureté apparente à défaut d'autre chose, dit-elle. Donc il y a bien un parallèle avec le nazisme, mais pas avec lui seul. J.K. Rowling dit qu'elle pense qu'on peut voir dans le ministère de la magie, même avant la prise de possession de ce dernier, un lien avec un ou des régimes que nous connaissons et aimons tous. Elle reconnaît bien sûr être de gauche, hein, et qu'il y a un certain degré de politique dans Harry Potter, mais elle dit « Je pense que chaque lecteur voit avec ses lunettes. Les gens qui envoient leurs enfants au pensionnat semblent croire que je suis de leur côté, ce qui n'est pas le cas. Les week-ends pratiquants pensent que je suis une sorcière, alors que je ne le suis pas. Moi, je crois qu'elle a tort, puisque ce sont les sorciers qui réfléchissent et qui font référence à l'histoire, bref, les gens normaux, c'est qu'elle doit bien être une sorcière, finalement. »
Merci beaucoup pour cette intervention. Évidemment, Harry Potter, ça me parle directement. En fait, oui, la question centrale, c'est toujours celle de l'élitisme. Je pense qu'une partie de la pertinence du propos dans l'heptalogie, elle tient au fait que ça colle justement à cette thématique du roman collégien, qui est traditionnellement en plus liée à cette question de l'élitisme. Donc, en quelque sorte, c'est le haut lieu de l'élitisme dont elle fait le lieu du combat contre l'élitisme. Après, sincèrement, heureusement que le génie est ailleurs, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de films ou de romans. Enfin, bon, est-ce qu'il y a mais là, il faut reconnaître que ça correspond de façon tout à fait rigoureuse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur Harry Potter?
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a une remarque par rapport à la tante Marge. La tante Marge, son chien, c'est un bulldog. Le bulldog, c'est Churchill, en fait. Hein. Enfin, bon, donc c'est le côté un peu tory, anglais, voilà, très conservateur. Et la question, c'est qu'est-ce que vous pensez des nouveaux films, hein, donc de la série Fantastic Beasts, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de placer ça durant entre deux guerres, en fin de compte. Donc voilà, c'est, voilà, ça c'est.
Alors, je crois que déjà, c'est, on est vraiment au tout début de ce qu'on est en train de créer avec, avec les animaux fantastiques. On peut supposer un certain nombre de choses. On sait que l'affrontement entre Dumbledore et son ancien camarade. Grindelwald allait en 45 après un temps de troubles, de guerre, donc qui correspond dans l'histoire humaine, dans l'histoire moldue, évidemment à l'affrontement avec les nazis, et que ça arrive pour mettre un terme à ça. Donc elle va sans doute nous raconter avec ce début dans l'entre-deux-guerres comment est-ce qu'on est arrivé à la prise de pouvoir de ce sorcier terrible, et peut-être les liens avec l'histoire réelle. Mais je crois que si on avait eu l'occasion de regarder simplement avec le premier volume de Harry Potter, on n'aurait jamais pu imaginer l'architecture incroyable qu'elle a constituée par la suite avec les 7 volumes. Donc je trouve que pour l'instant, c'est compliqué encore d'imaginer avec un seul scénario ce que ça va pouvoir donner, parce que son talent, c'est bien de mêler des choses qui existent déjà d'une manière tellement imbriquée que ça finit par dévoiler des sens nouveaux. Donc là, j'aimerais avoir une boule de cristal pour savoir ce qu'elle va bien pouvoir faire de tout ça, surtout qu'elle a prévu a priori 5 volets, donc sans doute de nouveau une construction très fine.
C'est elle qui écrit les scénarios ou elle contribue ?
Non, elle écrit les scénarios. Ce qui est intéressant, hein, parce que on a vu avec la pièce de théâtre qui a été une fanfiction qu'elle a validée, qu'on retrouve pas les traits de son écriture, son extrême inventivité en termes d'onomastique, toutes ses références. La pièce de théâtre poursuit son travail sans en avoir la richesse, et beaucoup plus simple en fait, et de fait, bon, me semble moins intéressante.
Bon, après la projection dans l'avenir, on l'avait tout à l'heure pour Game of Thrones, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que... Ça ne sert à rien de se poser la question, très clairement.
Et
s'il y a quelque chose de caractéristique, vous le dites très bien d'ailleurs, c'est que une nouvelle œuvre va enrichir une précédente en rebondissant sur une actualité qui, donc, de fait, n'était clairement pas prévue le coup d'avant, puisque elle n'existait tout simplement pas. Donc, on est vraiment, et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique aujourd'hui, c'est très vrai également dans les séries télévisées, savoir que on est sans arrêt dans un sens qui ne se contente pas de s'enrichir, qui ne cesse de se réécrire. Donc voilà, bon, c'est la mécanique a de quoi nous fasciner. Après, la boule de cristal.
Non, parce que par exemple, par rapport au terrorisme, comment Harry Potter est paru avant. Donc évidemment, après, il y a des gens qui se sont interrogés sur la façon dont elle liait l'histoire à ce qui se passait avec le 9 septembre. Et elle l'a dit, elle est revenue là-dessus. Elle dit évidemment, on peut retrouver des choses dedans, mais c'est plus vaste que ça.
Ça commence en 97. Hein,
donc voilà. Mais je crois que oui, on peut voir déjà dès le premier scénario des Animaux Fantastiques qu'elle-même, elle s'intéresse à des nouvelles questions, en particulier avec un détail, c'est que les Britanniques sont très choqués que les Américains, que les sorciers américains refusent le mariage entre moldus et sorciers. Et c'est intéressant. Parce que là encore, elle déporte des questions sur peut-être le mariage homosexuel ou le mariage entre des gens de religions différentes. Non, en tout cas, à chaque fois, elle avance et elle évolue par rapport aux questions qui l'intéressent, elle.
Les mariages mixtes, récemment, j'étais complètement étonné. Les mariages mixtes blancs-noirs aux États-Unis, c'est 6%. Ça en dit long.
Ouais.
Donc le problème, il est intact. Enfin, il n'est pas intact, mais il est encore impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien, nous allons donc passer à Noémie Boudin. Comment ? Il y a une question ? Il faut lever la main.
C'est juste une précision par rapport à ma question, c'est que Rowling n'a pas fait mystère, en fait, son engagement, mais depuis quelques années, c'est encore plus net, hein, notamment par rapport au Brexit, hein, donc, où elle a financé, elle a donné 1 million de livres, je crois, donc elle a campagne pour le oui à l'Europe, en fait, en l'occurrence, hein, contre le Brexit. Et aussi par rapport à Trump, notamment sur Twitter, en fait, hein, où elle est vraiment furieuse, en fait, hein, elle fait des tweets, mais on lance l'âme sur Trump, en fait. Donc ça qui est intéressant, je pense, c'est là-dessus ma question, en fait, hein, par rapport au fantastique.
Elle est très engagée. Hein. Quand Tony Blair était au pouvoir, comme il ne menait pas une politique pour les familles monoparentales en particulier, elle s'est opposée, on lui a demandé son soutien, elle s'y est opposée. Par contre, quand Gordon Brown est arrivé au pouvoir et qu'il a mené une politique au profit des femmes seules avec enfants, des familles monoparentales, là, elle a donné un gros paquet de sous. Ouais.
Après, être anti-Trump en 2018, c'est pas d'une originalité folle, mais très difficile.
Ça dépend dans quel pays, voilà.
Oh, bah, enfin, quand même, c'est l'Angleterre. Enfin, bon, c'est quand même un pays libre, elle risque pas grand-chose non plus. Enfin, faut pas...
Elle est là.
Je veux bien qu'on ait du courage, mais tu vois...
Elle a une position... elle est la première femme à être devenue milliardaire avec des livres, en plus des livres pour enfants. Alors, c'est
oui,
quand même...
Ça, voilà.